Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Marie Chantrey.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Général Patrick Dutartre.
Bonjour Marie Chantrey.
Un habitué de nos antennes, merci beaucoup d'être là. Je le rappelle, vous êtes général de l'armée de l'air, pilote de chasse et ancien leader de la patrouille de France. On a besoin de vous ce matin pour y voir plus clair sur ce qu'il se joue en ce moment sur le front de la guerre. Quelques heures après avoir promis de nouvelles attaques, fortes, très fortes, le président américain a fait marche arrière en invoquant un accord avec l'Iran. À la surprise générale. Écoutez-le, c'était hier soir.
Nous avons mis fin à la guerre avec l'Iran aujourd'hui et ils ont accepté de ne jamais avoir d'armes nucléaires. Ce que nous avons exigé, c'était tout l'objectif. C'était 95% de l'enjeu.
Déclaration fracassante, générale. Mais dans la foulée, l'Iran a déclaré qu'aucune décision définitive n'a été prise concernant un accord de paix avec les États-Unis. Qu'est-ce que fait le président américain? Vous, le militaire que vous êtes, il se donne un peu d'air uniquement avant un week-end chargé, les 250 ans de l'indépendance américaine, un G7 qui arrive, c'est 80 ans à lui-même?
Oui, effectivement, le timing est plutôt pour ne pas reprendre les hostilités tout de suite avec tout ce qu'il y a à fêter, en fait. Mais c'est vrai qu'on se perd un peu et le monde est suspendu au poste du président Trump. Et on se demande parfois s'il ne transforme pas ses désirs en réalité. Mmh. En fait, Ce qui semble clair, c'est qu'évidemment, il veut trouver un accord avec l'Iran et les gardiens de la révolution, notamment sur le nucléaire. Ça, c'est son obsession et on peut le comprendre.
L'obsession israélienne de son allié Netanyahou, même si on se demande si, au vu des déclarations des derniers jours, c'est encore un allié. C'est la 39e fois que Donald Trump s'avance sur un potentiel accord. 39e fois depuis l'annonce de cessez le feu. Franchement, effectivement, ce matin, ce vendredi matin, quand il se projette sur une signature, peut-être dans le week-end, peut-être en début de semaine, vous, le militaire que vous êtes, vous doutez, vous vous dites que c'est faisable?
Tout est possible. Dans le monde dans lequel on vit, c'est ça qui est extraordinaire quelque part, c'est que tout est possible. Mais c'est vrai qu'on a quelques doutes quand même, parce que à force de nous annoncer tous les jours tout et son contraire, on garde un certain recul en fait sur les choses. Ce qui semble intéressant, c'est que il y a ce qu'on appelle un MOU, Memorandum of Understanding, qui est un classique chez les anglo-saxons, notamment les Américains, pour définir ce qu'on appelle un accord cadre sur les sujets qu'on pourrait aborder. Alors, lui, il transforme ça en accord de paix, mais dans l'esprit iranien, je ne suis pas sûr du tout que ce soit la même chose.
C'est un accord finalement préliminaire, une forme de compromis de vente, mais on n'est pas du tout à la signature de la maison, si vous me permettez l'image. Mais quand même, un président qui s'avance beaucoup, parce qu'il dit hier, Mojtaba Khamenei, retranché dans ces montagnes iraniennes que personne n'a vu publiquement, a validé cet accord avec, je le disais en début d'interview, un Iran qui dément encore ce matin d'être allé si loin.
Oui, c'est ça. On disait hors plateau que les Iraniens comprenaient le Trump, mais que Trump comprenait pas l'Iranien, en fait, entre parenthèses. Et donc, il a envie de cet accord cadre, ça c'est clair, avec des sujets qui pourraient être abordés, mais les détails de ce qui peut se passer, ça peut prendre des semaines, peut-être même des mois. Ce serait bien, évidemment, de disposer cet accord cadre. Il évoque même une signature en Europe, mais on garde un certain doute, en fait. Hein. On espère tous, en fait, que, évidemment, les hostilités se termine et qu'on libère les trois d'Hormuz.
Mais ça sera long, très long. On va revenir sur l'accord et les points précis. Juste, là encore une fois, au général que vous êtes, à la maîtrise de la guerre, de ce qu'elle est sur le terrain, il y a ce que les États-Unis disent et puis il y a ce que l'armée américaine aussi, dans le même temps, fait. Parce que cet accord, cette annonce d'accord a été précédée de menaces très fortes dans l'après-midi même et la veille, de nouvelles frappes américaines en Iran. Cet allié américain, notre allié américain, encore une fois, très imprévisible, est-ce que c'est une force de votre point de vue? Est-ce que ça affaiblit l'ennemi, lui donnant finalement des signaux contradictoires?
S'agissant de l'armée américaine, CENTCOM, eux, ils essaient d'être assez pragmatiques, en fait, donc se tenir prêts à n'importe quel engagement.
Même avec un président tel que Donald Trump.
C'est toute la difficulté, les difficultés des généraux américains, de CENTCOM du chef d'état-major des armées, de faire, en fait, l'interface, si vous voulez, entre des postes, des décisions qui vont un peu dans tous les sens, et puis pour l'armée, de garder un cap. Si vous faites bouger comme ça vos troupes à la au même temps que les postes, c'est insupportable pour les troupes. Donc les forces sont prêtes. Ce qu'il faut noter, c'est que les derniers bombardements ont été quand même beaucoup plus significatifs qu'on imaginait.
Vous parlez dans la nuit de mercredi à jeudi. On ne s'attendait pas à une telle violence.
Oui, c'est,
et,
en fait, disons que
et force
on,
de feu.
Oui, c'était assez important. Il y avait déjà eu des frappes la veille, mais là, elles étaient beaucoup plus conséquentes. Et effectivement, on sent qu'une campagne de bombardement intense était en mesure d'être déclenchée. Et finalement, je Trump a menacé l'Iran de lâcher, entre guillemets, toutes les forces qu'il avait préparées. Et puis il a fait volte-face parce que les Iraniens, on lui dit, bon, on s'est monté jusqu'à Mojtaba Khamenei et qu'il n'est pas contre. Et donc, peut-être que Trump a transformé cette information en disant, on est prêt de signer. En fait, il le souhaite tellement qu'il confond peut-être parfois la
prophétie autoréalisatrice et ce qui est la réalité. Véritablement, encore une fois, vous dites tout est prêt encore, mais sur le plan opérationnel, encore une fois, l'armée américaine est différente de l'armée française, mais ça doit être une gestion particulièrement plus que délicate, je ne sais même pas si c'est le bon mot.
Oui, mais ça c'est le rôle vraiment des généraux, c'est de donner des consignes les plus simples possibles, les plus claires possibles à leurs troupes, c'est-à-dire vous tenez prêt, vous préparez vos missions pour ce soir, mais il peut y avoir un no-go, ce qu'on appelle un no-go, c'est-à-dire qu'on n'y va pas. Et c'est ce qui s'est passé à mon avis pour hier soir, c'est-à-dire qu'ils étaient effectivement prêts à une campagne intense de bombardement, les objectifs étaient désignés et ça allait effectivement débuter une campagne aérienne à nouveau, mais extrêmement forte sur site. Et du fait de ce qui s'est passé la veille, je pense que les Iraniens ont lâché quelque chose, entre guillemets, en disant, par exemple, ce mémorandum of understanding, le MOU, ou cet accord cadre est arrivé jusqu'à Mojtaba Khamenei, qui ne l'a pas rejeté, par exemple.
Mais qui ne l'a pas encore accepté.
Et voilà.
Avec des mots, et j'y reviens, on entendait le président américain qui parle de cet accord, qui parle aussi d'un Iran défait. Il dit ils n'ont plus les moyens de cette guerre, le pays est totalement détruit, plus d'aviation, plus de militaires. Ils vont donc signer cet accord. Si on entend certains observateurs spécialistes aujourd'hui de l'Iran, certains disent que les Iraniens sont habitués à souffrir, ils sont habitués aux sanctions, ils sont habitués à serrer la ceinture. Et finalement, c'est même pas les négociateurs qui en paient le prix le plus fort. Et puis que finalement, ces quelques semaines de cessez-le-feu ont aussi permis à l'Iran de se réarmer, de retrouver une certaine forme de puissance. Est-ce qu'au vu des connaissances de votre spécialité de cet environnement, c'est quelque chose que vous pouvez attester? L'Iran n'est pas désarmé aujourd'hui?
Enfin, moi, je suis sceptique quand même sur leur capacité à se réarmer, c'est-à-dire à réindustrialiser certains composants ou certains matériels militaires critiques. En revanche, ce dont ils disposent encore, c'est des stocks. Alors, toute la question est dans ces stocks.
De missiles et de
drones, enfin les Shahed, les fameux Shahed, missiles croisières et les missiles balistiques.
Et on le voit encore ces derniers jours dans le détroit d'Ormuz, détroit balistique sur des navires, sur des cibles bien précises. Encore une fois,
oui,
ça leur permet.
Il semblerait quand même que
nuire à l'armée américaine.
Bien sûr.
Oui.
Mais dans quelle proportion, c'est toute la question en fait.
Oui. Hein,
et ces fameux souterrains dans lesquels seraient stockées des armes, où personne n'a une vraie visibilité en fait sur ce qu'il reste. Ce qui est sûr, c'est que la capacité de nuisance iranienne existe encore, mais à quel niveau, c'est toute la question.
La capacité de nuisance, et on va venir sur ce point très précis, parce que Donald Trump, là aussi, s'avance en disant qu'une fois l'accord signé, le détroit d'Ormuz, qui est une voie de circulation maritime aujourd'hui, on voit majeure, et on voit ses conséquences avec sa fermeture et son blocus, pourrait rouvrir peut-être même ce week-end. Là, encore une fois, on est dans le déclaratif et on connaît le style du président américain. Ce week-end, non, on sait très bien que cela va prendre du temps, d'autant que s'interroge sur la présence ou pas de mines, parole contre parole encore. Logistiquement, le militaire que vous êtes dit, ça va être un temps beaucoup plus long que ce que peut dire le président américain.
Oui, ben, surtout entre l'accord éventuellement accepté au plus haut niveau des autorités iraniennes et de descendre jusqu'aux troupes, aux gardiens de la révolution sur la côte du détroit d'Ormuz, là, ne serait-ce qu'il y a toujours un temps, si vous voulez, entre la décision éventuellement politique, on ne sait pas trop comment la communication s'opère, surtout qu'il y a beaucoup de délégations locales. Moi, il me semble quand même que ce détroit pourrait s'ouvrir rapidement, mais il faudrait évidemment un accord. Et je pense qu'il n'est pas du tout hermétique. Hein. En ce moment, il y a quand même des passages qui sont annoncés assez discrètement. Hein. Certains bateaux coupent leurs transpondeurs, c'est-à-dire leur balise d'information.
Qui leur permettent d'être repérés, effet, et qui leur permettent de passer.
Et dans certains cas, de passer pour les plus téméraires, en fait. Et s'ils ne viennent pas des côtes iraniennes, les Américains les laissent passer. En tout cas, c'est ce qui semblerait dans... Donc, il n'est pas totalement hermétique, mais c'est vrai qu'on a tous besoin que ce détroit se rouvre pleinement et sans ambiguïté.
Avec des menaces du président américain, encore une fois, c'était il y a à peine 24 heures, si pas d'accord, menace de frapper à nouveau. Avec juste, j'aimerais ce point précis de l'île de Karg, qui, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, désormais sont habitués à cette nouvelle géographie, mais... Pourquoi l'île de Karg? Parce que c'est là où transite et où est stocké le pétrole iranien en masse.
Alors l'île de Karg est assez intéressante parce que évidemment le président Trump l'a évoqué spécifiquement.
Absolument.
Il l'avait pas fait depuis un certain temps. Mais cette île, elle est au fin fond du Golfe Persique. Hein, et c'est là en fait d'où sort toute la production d'hydrocarbures iraniennes. Donc on a tous envisagé à un moment en tant qu'expert militaire qu'il pourrait y avoir une opération entre guillemets spéciale sur cette île. Et je pense que ça démange quelque part le président Trump. Et si les choses devaient dégénérer, il est possible que non seulement il y ait une campagne de bombardement, mais également une action offensive sur cette île précisément.
Qui impliquerait donc, possiblement, une action au sol, une action terrestre. On a vu ces bateaux, ces barges,
oui.
Et ces images qui peuvent s'apparenter à une forme aussi de propagande, de dire en gros, nous sommes prêts, possiblement, à arriver sur cette île.
Ce serait pas un débarquement complet qu'on peut envisager de troupes terrestres sur le territoire iranien proprement dit, mais sur cette île en particulier, qui pourrait faire l'objet d'un coup de force quelque part avec une opération aéro-terrestre. Et ça, quelque part, c'est envisageable, absolument.
Et là, on rentrerait dans totalement autre chose. Encore une fois, vous disiez hier, Donald Trump a sans doute dit « no go », mais si les choses devaient tourner dans les prochaines heures différemment... Et son imprévisibilité très connue, ça pourrait arriver, ça pourrait être décidé.
C'est ça qui est terrible dans le monde dans lequel on vit, c'est que tout est possible. En fait.
Oui.
Tout est possible, c'est très difficile de faire des conjonctures sur ce qui va se passer demain.
Sur ce mémorandum, ce projet d'accord oui. sur lequel le président américain s'avance, il y a le Hormuz, il y a aussi le nucléaire. Là encore une fois, une forme d'opacité quant à ce que serait cet accord sur le nucléaire. Ils n'auront pas l'arme, dit le président américain, mais ça serait relégué finalement au second plan, au vu dans un temps plus lointain. Est-ce que ça peut satisfaire son partenaire israélien, Benjamin Netanyahou, qui en fait une condition, j'ai envie de dire, vitale?
Oui, alors moi j'ai toujours dit depuis des dizaines d'années que l'Israélien ne serait jamais, je dis bien jamais, l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Mmh. Parce que c'est une question existentielle pour eux. Donc ils surveillent bien sûr cela, mais à mon sens aujourd'hui, les capacités d'enrichissement, les capacités de produire une bombe ont vraiment été repoussées de mois, voire d'années avec tous les bombardements qu'il y a eu. Cela dit, Donald Trump veut des garanties pour la suite, et c'est tout l'objet en fait de sa détermination, et il est vraiment focus, entre guillemets, sur ce point-là. Hein, et on peut le comprendre. Et donc, par contre, ce qu'il a demandé comme sortir ce qui a été enrichi comme matériel nucléaire, comme uranium nucléaire, dans un pays tiers, sûrement pas aux États-Unis. À mon avis, les Iraniens ne l'accepteront jamais. En revanche, que ce soit vers la Chine ou que ce soit vers la Russie, c'est des choses qui pourraient éventuellement s'entendre, mais à mon avis, on n'en est pas là.
Qui traduisent aussi, général, une profonde, au fur et à mesure de ce conflit, divergence de vue entre un Donald Trump et un Benjamin Netanyahou, qui,
oui.
Finalement, dans l'approche, la chute du régime, un changement de régime du point de vue américain, ça n'est plus, Ou est-ce que ça a été un jour la priorité?
Moi, je
à la différence
pas
des Israéliens.
Vous avez tout à fait raison, Marie, de le souligner. À mon avis, c'était pas la priorité des Américains. En revanche, effectivement, c'était un souhait très fort de Benjamin Netanyahou. Le nucléaire, je pense qu'il prend du recul dessus parce que, compte tenu de tout ce qu'ils savent, c'est pas demain que l'Iran va se doter d'une arme. En revanche, les proxys, les missiles balistiques, ça, c'est un vrai sujet aussi. Le droit d'hormuse pour Israël, c'est pas la priorité. Alors bien que sûr. Pour les Occidentaux, éventuellement les Américains, c'est quand même un facteur déterminant.
Mais on apprend quand même que le président américain a pris le soin de contacter le Premier ministre israélien.
Oui.
Une fois l'annonce de cet accord en vue annoncée publiquement, mais là encore, on soigne et on n'insulte pas l'avenir. C'est
absolument.
Sans doute ça le sens d'une démarche pareille.
Complètement. Et ce que dit d'ailleurs Benjamin Netanyahou nous donne plus d'idées sur les points de l'accord-cadre que Donald Trump le donne lui-même. Donc ça, c'est intéressant à lire.
Général Patrick Dutrat, à ce moment de l'interview, peut-être un mot sur cette annonce de cette semaine. Le SCAF, vous savez, le projet d'avion de combat franco-allemand, abandonné, sans revenir sur les raisons économique et après 9 ans, économique et industriel, vous avez raison de le mentionner, quel terrible échec quand on voit la Chine se surarmer, se préparer, la Russie. Que dit le militaire ce matin quant à cette annonce ?
Alors moi, je suis pour une force européenne dissuasive dans le monde, une vraie. Donc tout accord commun qui ne fonctionne pas, ça me fait un peu de la peine. Cela dit, je comprends aussi Dassault qui sait faire effectivement des avions de 5e ou 6e génération tout seul.
On n'a pas besoin des Allemands.
Oui, mais je pense que on n'a peut-être pas besoin d'Allemands pour faire un avion, mais on a besoin des Allemands pour une armée à facette européenne dissuasive.
Mais vous vous dites quoi ? Énorme gâchis. Après, encore une fois, je le rappelle, 9 ans de projet d'études pour en arriver là.
Oui, c'est quelque part, c'est décevant. Parce qu'on est capable, je rappelle, parce qu'on l'évoquera peut-être, mais la patrouille de France actuellement aux États-Unis a survolé.
Et on y vient justement. On y vient.
Transition.
Pourquoi je vous dis ça ? Oui, non, dites-moi.
Pourquoi je dis ça ? Parce que les appareils qui ont survolé New York, c'est des appareils franco-allemands. Dassault Dornier, à l'époque, qui était une formidable réussite.
Et donc, ça peut donc fonctionner.
Bien
en
sûr.
Effet, terminons avec ces images magnifiques et aux auditeurs qui n'ont que le son, la patrouille de France, vous, l'ancien leader de la patrouille de France, qui a survolé le ciel new-yorkais pour les 250 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Derrière le spectacle, quand même, hein, une opération diplomatique et logistique parfaitement organisée.
Oui, absolument. Et vous savez que ça me touche particulièrement, parce que moi, il y a 40 ans, j'étais à leur place, en fait, au-dessus de New York.
Et vous avez survolé la grosse pomme.
Absolument. Avec mon camarade Pascal Ferraud.
Souvenir ému, j'imagine.
Oui, absolument. C'est pratiquement les mêmes images, mais c'est vrai que c'est un symbole extrêmement fort, la patrouille, de rayonnement, en fait, au-delà de l'armée de l'air, de la défense, de l'aéronautique nationale, mais de notre pays. Et c'est un facteur diplomatique extrêmement important. Hein, ça, les Américains apprécient. Ça faisait quand
même
la
une de toute la presse américaine.
Mais oui, il y a eu une du Wall Street Journal, quand même. C'est pas mal. Et c'est un facteur. Il faudra penser à l'avion de remplacement de l'Alpha Jet.
Mais par cette démonstration, et on voit cette une du Wall Street au même moment, derrière tout ça, derrière le décorum, il y a de la diplomatie là aussi. Nos alliés et nos relations avec les Américains ne sont pas toujours au beau fixe. Normalement, Emmanuel Macron et Donald Trump doivent se voir dans 48 heures.
Absolument.
C'est ça qui se joue également et qui se raconte.
Exactement. Et puis aussi une coopération dont on parle moins, c'est la coopération militaire sur le terrain entre les Américains et les Français qui est extrêmement bonne depuis des dizaines d'années.
Et on est très fiers de la patrouille de France. Merci beaucoup, Général Patrick Dutrat, d'avoir été avec nous ce matin. Il est 8h47 et vous êtes toujours bien sur RMC et BFM TV.